Allez, on passe tout de suite au marché. Bon, oui, les nouvelles étaient meilleures, mais si on regarde les performances sur la semaine, pour l'instant, c'était pas terrible. Bon, c'est vrai que l'annonce du deal sur la Grande-Bretagne, c'était en toute fin de semaine, donc il n'y a pas eu encore l'impact. Par contre, si on regarde depuis le début de l'année, on est pas mal. Nous, on est toujours avec 4,25% sur le CAC, Eurostock 8%, bon, le Nasdaq 7% de baisse. Bon, alors c'est vrai que quand on regarde tout ça, on peut faire cocorico pour l'Europe et pour la France. C'est quand même un phénomène de rattrapage par rapport à l'année dernière, mais ne boudons pas notre plaisir. La question, Pierre, je reviens vers vous, puisque vous avez déjà évoqué le sujet sur les marchés. Donc, ok, j'entends ce que vous dites. Il va y avoir du de-risking, c'est-à-dire qu'on a une situation sur laquelle on a une visibilité qui est un peu meilleure, donc moins d'incertitude, d'accord? Mais on a une certitude, c'est qu'il va y avoir des droits de douane. Ces droits de douane vont peser comme un impôt sur les pays et sur les sociétés, et que si on intègre ça au résultat des entreprises, c'est là que j'ai du mal à y voir. C'est-à-dire, je me dis d'un côté, je vois bien ce que vous dites, la notion de risque, mais je vois bien de l'autre côté qu'il va y avoir quand même des résultats d'entreprises qui vont être affectés. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur les marchés ?
Moi, je pense que ça va être un marché qui évolue latéralement.
Donc,
voilà, avec quand on est trop haut, ben ça, il y a des nouvelles macroéconomiques qui peuvent ne pas être bonnes, hein, comme les tarifs douaniers, mais ça peut être autre chose. Hein. Et puis dès que ça ralentit un peu trop, tout de suite là, les banques centrales vont commencer à envoyer des messages positifs. Trump va aussi sans doute.
Encore faut-il qu'elle puisse le faire. Pour ça, il faut que l'inflation baisse.
Oui. Oui, non, mais
d'accord, ce qui n'est pas le cas aussi.
Non, mais quand si les marchés baissent, ça veut dire aussi qu'il y a des perspectives économiques un peu moins bonnes.
Ouais,
donc, l'inflation, ben, ça se calme un petit peu. Voilà. Donc, je vois bien des marchés en dents de scie. Donc, dans des marchés en dents de scie, il faut.
En dents de scie, mais avec, dans un tunnel, quoi.
Dans un tunnel, mais assez large donc, quand même. Donc, d'accord. Je sais pas, si je prends le CAC 40, par exemple, je pense entre 7000 et 8300 points. Oui, donc, ça fait quand même un canal large dans lequel on évolue et donc pour quand on est un investisseur actif.
Donc, vous dites plutôt une stabilité avec une agitation à court terme, quoi, c'est ça ?
Moi, je pense que le phénomène de démondialisation, globalement, c'est pas bon pour le business, fondamentalement. Donc ensuite, après, il y a du bruit de court terme, là, comme tous ces accords,
oui,
etc. Mais globalement...
Mais là, si on prend justement un peu de recul, Stéphanie, si on prend juste un peu de recul, comme dit Pierre, mm-hmm. par rapport au bruit, et qu'on se dit, globalement, OK, il va y avoir des moments... Le genre, évidemment, quand on va annoncer un deal avec la Chine, quel qu'il soit, il va y avoir une hausse des marchés, on va célébrer tout ça, ça sera tous les deals seront faits. Mm-hmm. Mais une fois que la poussière sera retombée, il va rester des droits de douane.
Il va rester des droits de douane, il va rester un euro-dollar qui n'est pas du tout le même qu'au début de l'année. Donc pour toutes les valeurs exportatrices européennes, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui n'est pas positif. Après, il va y avoir aussi une zone euro qui s'est vraiment remobilisée et qui a en son sein quand même le plus gros marché mondial de consommateurs solvables. Donc on a aussi quand même une base de sociétés européennes très solide. On a d'autres zones au niveau du monde, le Japon, l'Inde, qui sont des très grosses zones économiques et qui, à mon avis, ont quand même beaucoup de potentiel. Donc les sociétés, effectivement, elles ont ce problème des droits de douane, mais c'est loin d'être le seul, finalement. Et c'est un peu, finalement, depuis toujours leur boulot que de faire les ajustements entre l'échange, les droits de douane, quel est le potentiel de telle et telle zone. Depuis le Covid, elles font que ça, j'ai l'impression, dans ces sociétés.
Si, donc, peut-être possible pour rebondir. La plupart des entreprises exportatrices disent, de toute façon, aux États-Unis, s'il y a des droits de douane, on montera les prix. Donc, OK, donc, elles vont monter les prix. Peut-être que la demande en face va faiblir légèrement, mais globalement, je veux dire,
il y aura une partie
quand même qui sera compensée. Ensuite, ce qu'on attend, c'est que Trump vote une grande loi fiscale, des allègements fiscaux. Et ça pourrait être l'élément qui compense et qui donne une nouvelle jambe de hausse sur les marchés. Voilà. Mais après, là, on est encore qu'au début de cette histoire de fiscale.
Wilfried, vous comprenez, j'ai du mal à voir clair en contrebalançant tous les événements.
Ouais.
Je vois pas en fait qu'est-ce qui va l'emporter sur le reste.
Bah justement, effectivement, vous le dites justement, il y a ces trois éléments qui pèsent en général sur les marchés. Il y a la macro, la micro et le contexte de liquidité. Et pendant longtemps, on a eu tout dans le bon sens.
Ouais.
Il y a quelques semaines, on avait tout dans le mauvais sens, que ce soit la macro, on avait des doutes sur la capacité des entreprises, en particulier les géants de la cote, à s'en sortir, et on avait des doutes sur le soutien possible des banques centrales. Là, aujourd'hui, effectivement, on a un doute sur l'environnement de liquidité. Comment est-ce que les banques centrales vont réagir par rapport à ce que disait Jérôme Powell, c'est-à-dire à la fois une baisse de la croissance et donc potentiellement une hausse du chômage, mais aussi peut-être une hausse de l'inflation. Comment je vais faire ? Lui-même n'en sait rien. des perspectives macro qui semblent être au moins maintenant à peu près stabilisées, même si c'est quand même très compliqué, mais peut-être qu'on a un plancher, et des actualités d'entreprises qui ont été globalement, sur la saison des résultats, plutôt rassurants, en disant on arrive effectivement
donc,
à s'en sortir.
On se dit quoi sur l'avenir de la bourse? On se dit comme Pierre et comme Stéphanie un peu, c'est-à-dire de dire bon, il y aura des opportunités.
Ouais, moi je suis dans cet état d'esprit là. Je pense qu'on est effectivement sur un tunnel de fonctionnement, un peu des marchés en ton ondulé. Moi je suis quand même plutôt positif. Je pense qu'on a passé le pic de l'inquiétude, et donc dès qu'on passe
le pic de l'inquiétude, Pierre, je me repense à ce que vous disiez, il fallait racheter dans le creux. D'accord, mais là vous voyez, ça allait tellement vite. Là, les cours de la bourse allemande sont déjà à leur niveau record.
Tout va toujours très vite en fait sur les marchés. En fait, on sait très bien que les marchés anticipent toujours beaucoup plus vite et
ouais,
beaucoup
plus en amont. Mais là, ils sont pas quand même déjà, ils n'ont pas 8 coups d'avance.
Ils sont assez hauts, et c'est pour ça qu'effectivement, on va avoir cette espèce de ton ondulé au fur et à mesure que les nouvelles qui tombent sur tous les écrans vont nous agiter. Est-ce que le deal avec la Chine, est-ce qu'il va être rapide, pas rapide? Est-ce qu'il va être est-ce qu'on va effectivement vers des droits de douane généraux de plus de 15, 20, 30%, c'est pas impossible.
C'est pas impossible du tout.
Et là, effectivement.
C'est notre scénario, 10 à 20%.
Et là, dans ce cas-là, les marchés pourraient se dire, on n'a pas été encore suffisamment loin dans la réactualisation des prix futurs, ou est-ce qu'effectivement, on est un peu dans un deal à la britannique, en disant, il y a non seulement il y a un plancher, et il y a aussi des exceptions.
Il a dit, le deal avec les Anglais, c'est vraiment comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation de
déficit. Exactement, et ce que disait Christopher est très juste, c'est-à-dire que le sujet fondamental, et ça nous arrive à tous de temps en temps, il faut le souligner.
Par hasard, souvent.
Mais souvent.
En tout cas,
souvent,
dans son cas.
Mais il en faut, il faut de la chance, surtout dans nos métiers. Et en fait, on se rend compte que la clé, c'est est-ce que Donald Trump va laisser se développer les phénomènes, effectivement, de contournement de ces droits de douane qui ont généralement lieu par des pays différents, etc. Auquel cas, on va dire, tout le monde sauve la face et on va réussir à s'orienter vers une croissance plutôt positive. Ou est-ce qu'il est vraiment dans une posture extrêmement idéologique où il veut fermer tous les échappatoires? Auquel cas, ça pourrait quand même être beaucoup plus compliqué. Donc, beaucoup de volatilité, je pense.
Sur la bourse, Christopher?
Alors, moi, je suis d'accord sur le scénario du tunnel. J'ai plutôt tendance à considérer que le pire sur les droits de douane a déjà été pricé.
Okay.
Alors, ça va prendre du temps, effectivement, mais je ne pense pas que ça va être compliqué. Le seul élément un peu d'incertitude, c'est quand même l'évolution du dollar. Pas oublier quand même dans le programme, et Trump me le mentionne souvent, le dollar est trop fort. Il s'est certes dévalorisé un tout petit peu, mais pas tant que cela. Hein.
Pas tant que
notamment
ça.
Quand on regarde le dollar index, on reste quand même à des niveaux qui sont très élevés. Est-ce qu'il y a un sujet d'évaluation, donc et pas d'appréciation, d'évaluation du dollar qui pourrait arriver sur
la
table?
Mais comment on peut dévaluer le dollar? Comment Trump peut dévaluer le dollar? Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'on ne voit même pas la mécanique. Alors, je me rappelle, parce que je suis très vieux, les accords du Plaza, et tout le monde a été d'accord. Je veux dire,
vous n'aurez pas de... Enfin, il y a des tentatives aujourd'hui. Ce qu'on sait dans les accords commerciaux qui sont négociés en Asie, il y a la question du change et il y a les discussions d'intégrer une clause de dépréciation des monnaies locales. Donc, ça peut être via cet aspect-là, et c'est un peu le meilleur des scénarios parce que c'est concerté. Après, on peut toujours tout à fait avoir plutôt quelque chose qui n'est pas concerté et une décision un peu unilatérale de Trump de dire, nous aujourd'hui on considère que le dollar est trop fort. Et
comment vous faites ça?
Ça se produit un tout petit peu déjà, c'est-à-dire vous créez de la méfiance à l'égard des investisseurs étrangers sur tous les actifs en dollars.
Derrière vous tapez un taux d'intérêt de votre dette qui flambe et donc
ce qui est un exercice difficile,
super
mais difficile. Derrière cela il peut toujours se dire la Fed va acheter mes bons du Trésor, ce qui va limiter effectivement l'envolée
vraiment joué avec le feu.
Effectivement, mais en revanche, je pense qu'il y a quand même un sujet, si ce n'est pas d'évaluation, en tout cas dépréciation du dollar. Et nous, ce qui est complètement inhabituel chez Pictet, on met en avant notamment le fait d'envisager des couvertures de change tactiques, alors que d'habitude, on ne mettait jamais ça
en avant.
C'est
quoi une couverture de change tactique?
C'est-à-dire avoir une couverture de change juste, disons, sur la période de l'été. Pourquoi la période de l'été est rentrée? Parce qu'après, on se rapproche de plus en plus de la période des mi-termes. Trump n'a aucune raison de créer un chaos monétaire à ce moment-là. S'il veut faire quelque chose, c'est dans les mois à venir. Sinon, il ne le fera pas, en tout cas, dans la durée, dans les prochaines années.
Il faut savoir que la politique de change fait partie des attributions du Trésor américain.
Mm.
Et donc, il est dans les outils qu'il a à sa disposition. Effectivement, c'est extrêmement difficile et extrêmement compliqué de ne pas générer un chaos, y compris en termes de taux d'intérêt. Mais il peut mettre à contribution le Trésor américain dans le cadre d'une politique de change.
Et
qui serait,
en faisant comment?
Vous émettez ou vous vendez de la dette de façon massive.
Mais les taux montent.
Oui, c'est d'où le problème. Mais en fait, il y a quand même des leviers, mais avec des inquiétudes et des inconvénients qui sont très forts.